Okay. Est-ce
Guillaume,
qu'on
tu veux
fait
dire quoi sur...
le ping-pong du bonjour bonsoir?
Je pense qu'on peut abandonner déjà l'idée.
Oh non!
J'arrive tout de suite! Allez, viens, Milou! En route pour de nouvelles aventures!
Bonjour, bonjour!
Non, bonsoir!
Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy.
Allez, ciao, bonsoir!
C'est bien ça, bonjour!
Bonsoir à ceux qui préfèrent répondre bonsoir.
Bonsoir, Paris!
Bonsoir, Thibaut.
Bonsoir Diego.
Bonsoir Arthur.
Bonjour Guillaume. Enfin bonsoir à vous aussi.
Oh,
incroyable du premier coup.
C'est la première fois. C'est la première fois.
Parce que il faut savoir qu'on coupe beaucoup de ces tentatives pour en laisser que la bonne, mais souvent c'est la 7e ou 8e. Et là, ne mentons pas aux auditeurs, ce sera vraiment le premier jet qui restera le meilleur. Et bonjour, bonsoir à tous pour cet épisode 2. De la saison 2 de Bonjour, Bonsoir. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Diego Crespel qui a rejoint sa Bretagne natale. Kenavo, Diego.
Merci, Guillaume. Effectivement, j'ai eu la chance de faire un petit Montparnasse-Rennes la semaine dernière pour rejoindre la contrée celtique, la contrée costa-mauricaine pour être plus précis. Mon grand plaisir.
Et celui qui n'aime pas le Celtic, c'est Thibaut. Thibaut, bonjour à toi.
Forcément, cette perche, je savais qu'elle est tendue. Ben, écoute, bonjour, bonsoir à tous. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout bougé, car ma vie est faite de routine et il ne se passe absolument rien, si vous voulez savoir.
Vivement que je rentre. Et, bonsoir, Arthur. Donc, Arthur, digne créateur dans la page Instagram Tintinade. Salut à toi.
Yes, bonjour, bonsoir à vous trois, du coup.
Et le petit frère de la page ou la petite sœur qui s'appelle aussi Tweetinade, puisque tu es aussi sur Twitter.
Exact, ouais, depuis un an à peu près.
C'est quelle plateforme qui marche le mieux?
C'est très différent, je trouve. Et ouais. Twitter, je l'ai commencé beaucoup plus tard, ça patinait longtemps. Puis à un moment, je ne sais plus, j'ai posté une connerie sur genre On Marche, je ne sais plus quoi. Elle a bien percé, et je suis passé à 60 000 abonnés en un mois à peu près. Donc maintenant, c'est, c'est kiff-kiff.
Donc aujourd'hui, on va discuter de la bande dessinée. Donc ça va être le thème d'aujourd'hui, la BD. Et je sais que Thibaut, tu as creusé le sujet pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et est-ce que tu aimes la soupe aux carottes, toi, Thibaut?
Beaucoup, énormément. Contrairement à tous les autres légumes que je ne mange pas de manière solide, j'apprécie tout en soupe. Merci de te soucier de mes papilles.
Surtout de tes dents.
Surtout de mes dents.
Donc, au niveau de la bande dessinée, Thibaut, est-ce que tu peux nous en dire plus avec cette petite introduction? C'est quoi la BD?
Ben ouais, alors la BD, ça a été désigné comme le 9e art actuel. C'est désigné actuellement comme le 9e art, mais c'est grosso modo des dessins et des bulles pour faire parler des personnages. Dans les années 30, c'est en Amérique du Nord que ça commence à prendre de l'ampleur avec les comics qui deviennent populaires grâce à Superman qui est en tête de gondole. Alors qu'en Europe, celui qui lui fait face, c'est le précurseur, s'appelle Hergé, et il est belge, donc on peut bien leur laisser ça. C'est dans le plat pays que naît Tintin. Toutefois, c'est quand même que dans les années 60 que vraiment la BD gagne du terrain, puisqu'elle est considérée jusque-là comme de la sous-littérature. Et jusqu'en 1974, où il y a vraiment carrément une émulation qui se monte autour de la BD, et grâce notamment à la création du festival d'Angoulême. Et moi, ce que je voulais savoir au début, c'était quels étaient vos souvenirs, vous, personnels, avec la BD. Et on va commencer par toi, Arthur.
Loulou, c'est marrant parce que justement, finalement, c'est Tintin, là, c'est un bon pied pour entrer dedans. Dans ma famille, on lit beaucoup, beaucoup de BD. Du coup, j'en ai toujours eu énormément à la maison. Et les Tintins, je les avais lus petits. Et en fait, après, j'étais complètement passé à autre chose. Enfin, pour moi, c'était un truc de gosse. Ça ne m'intéressait absolument pas, quoi. J'y suis revenu vraiment par le détournement. Donc, en fait, mes références BD, ce n'est pas du tout Tintin ou même la BD franco-belge classique. Pas énormément, quoi. Depuis l'enfance, je suis plutôt sur d'autres trucs.
Ah ouais? Et tu as des titres à nous proposer, par exemple?
Ouais, carrément. Dans ceux qui m'ont influencé le plus, je dirais Corto Maltese, en BD italienne. Pour le fond comme pour la forme, je trouve ça absolument fantastique. En français, il y a quoi? Il y a un peu tout ce que fait Loisel, tout ce que fait Trondheim, Sfar, De Cap et De Croc, que j'ai beaucoup aimé. Ouais, il y a des trucs vraiment super. Plus récemment, Black Sad aussi. J'ai eu un gros coup de cœur. Bon, ça, c'est assez connu, mais franchement, ça a de la gueule. Hein, D'ailleurs, des dessinateurs, il me semble qu'il y en a au moins des deux qui travaillaient pour Disney, donc on voit sur les animaux et tout, il y a tout un travail là-dessus. Et puis après, ouais, d'autres trucs, il y en a vraiment énormément. Garulfo aussi, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et des trucs parfois plus absurdes, genre le génie des alpages, des trucs comme ça aussi.
Ouais, génie des alpages est ressorti. On a fait un petit question-réponse sur notre compte Instagram et le génie des alpages était venu plusieurs fois dans le top des BD de nos abonnés, de nos peu abonnés.
Bah, vous avez des fans de Fumure, alors tant mieux.
Et voilà.
Et quand on a le fait, c'est en tout cas incroyable choix. Moi, j'approuve à 100%.
Et de votre côté, les gars, qu'est-ce que ça représente quoi la BD pour vous ?
Moi, c'est vrai, jeune, c'est vrai que j'ai lu beaucoup Gaston Lagaffe. J'ai lu beaucoup aussi Astérix, j'étais pas mal fan, puisque le village Astérix, c'est exactement, quand vous voyez le petit pion là, c'est exactement vrai, là où j'habite.
Ah.
Et après, j'aime bien aussi la... Je sais pas si c'est forcément la BD, mais j'aime beaucoup les caricatures, l'art du dessin de manière générale. Ouais. Donc que ce soit même Wolinski ou Gottlieb, j'ai toujours bien aimé. Donc Gottlieb, il a fait plus des BD un peu plus en mode histoire, mais même Wolinski, j'ai toujours aimé un peu les dessins comme ça, la manière d'expliquer. Et j'aime bien aussi le fait de se réinterpréter un petit peu des BD existantes et en mettant des messages rigolo ou politique dedans. Moi, je trouve que c'est vraiment malin. Et autrement, évidemment, Corto Maltese. Et j'avais bien aimé Largo Winch en BD aussi. Je sais, par contre, je suis incapable de dire les noms d'auteurs. Ah. Et autrement, L'Épervier aussi. Je sais pas si vous connaissez.
Ouais, c'est excellent.
Voilà,
ça parle de quoi ?
C'est un... Bah, je dirais que c'est un... C'est plus réaliste sur les dessins que Corto Maltese. C'est même dans les histoires, il n'y a pas forcément de... Ça reste un marin, mais qui a un peu un côté aventurier. Et ça se passe, je dirais, j'avais du mal à situer en termes d'époque.
Je crois que c'est 17e.
17e, ouais, c'est l'époque de... Il y a un numéro sur la traite des esclaves. Ça se passe à ce moment-là. Et du coup, on le voit un peu évoluer sur différents continents. Puis il y a des histoires, c'est un solitaire un peu, voilà, qui se confronte à certaines aventures. Après, c'est quand même une BD, tu lis pas ça quand t'as 10 ans là, je pense qu'il faut...
Alors apparemment c'est 18e siècle, et l'auteur c'est Patrice Pellerin, pour ceux que ça intéresse.
Ok.
Voilà.
À pas confondre d'ailleurs avec Les 7 vies de l'Épervier, qui est aussi une excellente BD qui se passe au 16e, pareil, c'est de la BD historique, mais qui est super aussi. Par contre, vraiment pas affilié à des... Enfin, ça dépend comment on les considère, mais pas forcément affilié à tous les gamins. Quoi. C'est assez vénère pour le coup.
Si on veut, par les gamins, mieux vaut leur montrer L'Épervier sortait, le jeu.
Exactement.
Aussi, voilà, que je suis sûr que vous avez tous eu dans la tête quand on a parlé d'Épervier. C'est le truc qui m'est venu en premier.
Le jeu de toutes les cours de récréation. On en est là, moi, la BD, c'est vraiment le truc avec lequel j'ai commencé à lire, en fait. Je sais que j'ai appris à lire grâce à mon grand frère, tu vois, j'allais lire avec lui. Et après, dès que j'ai su lire mes premiers bouquins, tu vois, je faisais pas les... Je sais qu'il y a eu, il y en a qui étaient plus sur les chairs de poule, il y avait plein de petits romans comme ou de trucs de l'apprentissage de la lecture, des trucs accessibles. Moi, j'étais vraiment dans les BD, et on y reviendra après, mais par exemple, moi, j'étais plus dans du Astérix Obélix que j'ai dévoré, que j'ai en collection. Ça va être du manga aussi, du Dragon Ball. Enfin, c'est vraiment, moi, le support de lecture que j'ai kiffé depuis le début et que je kiffe encore. Je préfère lire une bonne DD qu'un roman.
Ouais.
Ok. Mais, moi, je suis un peu comme toi, Thibaut. J'ai vraiment commencé à lire, notamment avec l'Astérix Obélix, quand j'avais 5-6 ans. Et ensuite, voilà, hein, les grands classiques, Lucky Luke, Tintin aussi, puis Blueberry. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas mal,
ouais,
c'est Blueberry,
c'est
western.
Bon.
Et là, je ne lis plus trop de BD, mais récemment, j'avais bien aimé Manu Larcenet, Combat Ordinaire, et le Chat du Rabbin aussi, de Sfar.
Ah, ouais, Jeune Sfar, le Chat du Rabbin.
Et donc voilà, après, à partir du moment où, je ne sais pas si vous avez fait ça, faire les grands raccrocs dans les librairies, à prendre une BD, à se cacher un peu,
ouais, c'est ça,
pour tout lire sans payer.
Ben ouais, mais surtout pour attendre tes parents qui faisaient les courses au supermarché, toi tu te foutais au rayon BD et puis tu avais le temps de passer le temps, tu passais le temps, quoi. Comme un raccroc.
Le fameux rayon manga à la FNAC avec ses ados qui t'empêchent de passer dans les couloirs, là, qui ont des shonen à côté.
Putain de jeunesse.
Non, j'ai haïssé, ouais.
Non, mais c'est vrai, en plus, il y avait aussi cette. Enfin, moi, ça me le faisait. J'avais aussi cette impression que c'était interdit et que du coup, je pouvais me faire gauler à tout moment. Donc, je me cachais un petit peu quand je lisais. Et dès que je voyais un vendeur, je refermais le livre en mode ouais, c'est sympa la couverture, juste pour pas.
Combien ça coûte, ça?
Ouais, c'est.
Ouais. Oh, est-ce que pas d'argent. Est-ce que vous, vos parents, si vous les dévoriez, je me souviens, moi, les Picsou Magazine, tout ça, je lis ça dans la voiture. Puis mon père me disait toujours, mais. C'est sûr, tu lis pas, tu regardes que les images, c'est pas possible que tu l'aies lu aussi vite. Est-ce que vous aussi, vous avez eu voilà, ce petit manque de confiance du fait que vous étiez accusé de regarder que les images?
Ouais, surtout sur Pixel Magazine.
Ouais.
Ouais.
J'étais abonné, j'adorais ça, c'était incroyable.
Ah, il y avait des tutos des comment ça s'appelait, les Riri Fifi et Loulou, il y avait des trucs,
les astuces
des Castors Juniors, quoi. Ouais.
Yes, et puis les BD de Don Rosa, quand même, sur la jeunesse de Picsou.
Ah, on est d'accord. Ouais, la jeunesse de Picsou, c'est vraiment incroyable.
Ouais, c'est quelque chose que Mickey, quoi.
Bah, tu vois, c'est mon dernier livre. C'était une des prochaines questions. Tu vois, c'était la dernière BD lue récemment. Moi, j'ai récupéré un vieux Super Picsou géant chez mes parents. C'est vrai, si je dois donner ma dernière lecture, c'est vraiment Super Picsou géant.
Alors, ça a bien vieilli ?
Eh bien, ça vit très bien. C'est très bien. Et puis même, il y a encore, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est l'odeur encore de ça, justement, ça vieillit. Les pages ont une odeur. Tous les livres ont une odeur, je trouve, et celui-là particulièrement, quoi.
Ouais, c'est un plaisir.
Et ça, tu l'as trouvé où, Thibaut, tu disais ?
Chez mes parents. Moi, mes parents m'ont suivi à fond là-dedans, dans un site de BD. Mon père, alors ma mère, c'était plus le côté, bah, tiens, c'est bien, Ellie, il a une passion. Mon père, c'est plus le côté vénal, en fait, qui se disait, mais ça, un jour, ça vaudra du pognon, quoi. Donc là, il fait la collection de tous les trucs, il a récupéré toutes les BD, mais c'est vraiment le côté, bah, un jour, je vais vendre ça, je vais être méga riche.
Et les cartes Pokémon, il n'est pas parti là-dedans.
Et non, malheureusement, on a tout jeté. Quand j'ai appris que c'était remonté en flèche, j'ai de suite été chercher chez moi voir si j'avais pas la perle rare. Et je suis tombé sur un vieux chitiflore dégueulasse qui coûte 2 centimes. J'étais dégoûté.
Et merde.
Terrible. Hein. Ouais, chitiflore, quand même, très bon hein. Au demeurant.
Au demeurant, pas Pokémon. Trop. Non. Mais, carte de merde.
Non, et puis, en tout cas, est-ce que toi, ton amour de la BD. T'as amené à faire les Tintinas d'Arthur ou c'est vraiment quelque chose qui est venu comme ça? Tu t'es dit pourquoi pas me servir de ce support pour balancer des vannes?
Bah en fait, c'est plutôt la seconde option. J'avoue qu'au début, je faisais des détournements, du graphisme comme ça en amateur, des trucs dans le genre. Et en fait, des trucs assez simples, comme des amis ou comme ça. Et finalement, c'est grâce à ce bon infographiste, je ne sais pas si vous voyez, c'est un
badge. Oui.
Voilà, bah, en gros, franchement, je pense que c'est un peu inégalé. Quoi. Il a fait des super détournements de Tintin. Ce qui est un art, en fait, depuis le début de Tintin, il y a toujours eu des détournements, mais lui, il a vraiment adopté ça au code actuel et tout. Là. Il a fait un truc vraiment top avant de se faire remonter les bretelles. Et du coup, en vrai, c'est ça qui m'a inspiré. D'ailleurs, je suis en contact avec lui, c'est un très bon gars.
Okay. Mais très bien, parce que Diego l'admire.
Ah, c'est vrai.
Ouais, mais il est génial.
Ouais, j'adore cette idée d'aller prendre des vieilles images comme ça et de mettre des messages actuels, des messages rigolos. Et ça fait penser, il y avait un truc, et on l'a un peu tous fait, je me souviens plus exactement du nom. Il y a eu une époque, c'était au lycée, où tu pouvais créer des petits personnages et tu pouvais leur faire dire des trucs, là.
Ouais.
Au collège, là. Et tu leur faisais
dire des trucs.
Non.
Sims.
Non, c'était sur Facebook. Tu pouvais créer des images où tel et tel personnage était présent au même endroit et tu racontais une saucisse et la personne. Vous voyez pas de quoi je parle?
Ah
ouais, si.
Abo.
Club Pingouin.
Abo.
Ah oui.
Je crois que c'est Abo, non? Après, c'est même passé sur Snap. On pouvait le.
Ouais, il y avait des avatars après sur Snap et puis après, c'est Abo dont tu parles.
Abo, peut-être.
H-A-2-B-O, quelque chose comme ça.
Ouais, tu montrais.
Ouais, c'est le truc où je me disais vraiment il faut que je l'aie, ça a l'air hyper cool, mais connexion internet à la campagne, tu connais, impossible, classique.
Ah mais c'était rigolo ça, déjà, bon là tu pouvais le faire avec tes potes, chacun avait son avatar et tu leur faisais raconter des saucisses, c'était quand même assez rigolo.
Ouais tout à fait, bah, en plus ça oblige justement à trouver les bonnes formules, etc., s'adapter au cadre, quoi. C'est ça qui est sympa aussi.
Mais souvent, et d'ailleurs c'est une question, est-ce que tu as l'idée avant de voir l'image ou... T'as l'image et puis là l'idée vient, ou alors c'est les deux dynamiques fonctionnent un peu, c'est quand tu ouvres une BD de Tintin tu te dis ah lui là je pourrais faire quelque chose avec ça, ou alors tu te dis ah là j'ai une idée, c'est sûr qu'il y a un truc de Tintin qui colle avec ça.
Ouais, bah c'est très intéressant ça. Honnêtement, au début, c'était plutôt justement, j'ouvrais des BD un peu au hasard. Enfin, je regardais des planches scannées ou des trucs comme ça. Et je voyais des trucs à détourner. Je me disais, tiens, c'est évident de partir sur tel truc là, ou là, on dirait qu'il dit ci ou ça. Et plus le temps passe, en fait, plus honnêtement, à force de les détourner, on finit par les connaître un peu par cœur. Donc, quand on voit un truc d'actualité et tout, on se dit, tiens, il y a telle case qui collerait. Donc, on passe de l'un à l'autre. Enfin, moi, perso, ça m'a fait vraiment redécouvrir les BD. Et je sais qu'il y en a deux, trois d'ailleurs, où j'ai encore pas mal de matériel, c'est assez dense, quoi.
D'accord, ouais. Donc, en fait, tu utilises directement le support papier de Tintin pour créer ton contenu.
Y a des scans qui traînent ici et là sur Internet, donc je récupère ça en général et je pars de ça. Ouais. Ça permet de gagner du temps.
C'est ça, je me demandais comment tu faisais pour récupérer des vignettes.
Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Honor Chibald de Tintin, maintenant Honor Girafe, tout ça. Je crois que il y avait à peu près 50 000 personnes dessus et j'avais commencé à faire des trucs là-dessus en fait avant de faire mon compte Insta. En vrai, j'ai pas trop de mérite, hein. Il a percé parce que c'est le premier compte Insta où j'avais commencé à mettre des détournements dessus, mais après il y en a d'autres qui l'ont fait et qui font des trucs super aussi. Effectivement, sur ce groupe, il y a vraiment des génies, quoi. Il y a des trucs absolument exceptionnels. Et vu qu'il y a un peu les scans qui tournent sur le groupe, ça simplifie grandement les choses. Au début, je prenais des cases ici et là, c'était une galère, il fallait les trouver en bonne qualité et tout. Et là, quand on a des bons scans, mine de rien, on gagne du temps. Puis ça permet vraiment de redécouvrir les BD, quoi.
Ouais, moi, si vous aviez un top 3 des BD à conseiller.
Des meilleurs BD dans tous les styles.
Ouais, des BD que tu t'es préféré, quoi, en gros.
Ouais, franchement, bon, je vais revenir à des trucs que j'ai dit, mais je pense que 2KP de Croc, pour le fond et la forme, les Corto Maltese, et allez, il faut que j'en trouve un troisième aussi bien. Je laisse une place ouverte pour le troisième. Je vraiment top.
Inséré.
Ouais, ça va, je vais en trouver un.
Ça marche.
Et vous, c'est quoi alors?
Moi, ce serait, comme je disais, Astérix Obélix. Parce que ça a été les premières collections et vraiment l'apprentissage de lecture avec ça. Et puis, c'était les premières images. Enfin, c'était beau dans les images, quoi. Et même maintenant, à l'heure actuelle, tu peux le relire et comprendre de nouvelles blagues. Ensuite, il y a Gaston Lagaffe. Mais là, c'est plus un côté où vraiment, on me comparait au personnage. C'était un peu vexant. Mais on me comparait vraiment à lui. Donc, je me suis identifié de suite à un personnage. Et après, il y a eu les Little Kevin. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ouais.
Voilà. C'est édité par Fluide Glacial. Alors là, c'est plus le côté vraiment. C'est la première fois de ma vie que je voyais des boobs dans une BD qui était vraiment facile d'accès dans ma bibliothèque. Donc voilà, c'était drôle, mais en même temps, voilà, c'était deux trois
boobs.
Ça fait plaisir, ouais, on va pas se le cacher.
Ah, je me vois en troisième, je mettrais peut-être Torgal pour des raisons un peu similaires finalement.
Ah, très bien.
Ok, moi j'aime bien aimer aussi, j'en ai pas parlé, mais je mettrais Clone Wars. C'est une BD sur Star Wars, j'ai vraiment bien aimé.
Puis, ils ont adapté un anime, non ?
Oui, bon, après, beaucoup d'adaptations, tu vois, sur Star Wars, là, mais je sais que les BD étaient vraiment très belles. Et L'Enfest de Troy et Claude de Troy, n'importe quoi. Troll de Claude de Troy, j'avais bien aimé aussi. Puis j'irai Lucky Luke pour le classique.
Ouais, Diego ?
Là, vous avez dit pas mal, hein. C'est vrai que Corto Maltese, ça irait pas mal dans le top.
C'est pour ça que je suis passé en premier avec les classiques, comme ça au moins je sortais tout le monde à tirail et puis c'était fait, quoi.
Il y avait, je sais pas si Kid Paddle, ça vous dit quelque chose?
Ah, Kid Paddle, ben oui.
Ah oui, incroyable, ah, ouais, le geek.
Très très bon.
Ouais. Kid Paddle, j'ai lu ça aussi, et puis en troisième, c'est vrai que tout à l'heure t'as parlé de Blueberry,
mm-hmm.
Et ça, c'est vrai que c'est pas mal.
Incroyable, ouais.
Ouais. Et puis d'ailleurs, Blueberry, ça se passe dans un endroit, je sais pas si vous avez sans doute vu ça aux infos là récemment, au Kentucky. Il y a eu des tornades là, c'est assez dramatique ce qui s'est passé.
Ouais.
Puis bah moi, enfin, je suis un fan de poulet et forcément quand j'ai vu que ça se passait au Kentucky, j'ai tout de suite pensé au KFC, le fameux Kentucky Fried Chicken.
Et là,
je suis un peu désolé à toutes les personnes qui sont décédées là-bas, mais c'est vrai que c'est la première pensée que j'ai eue quand j'ai vu ça aux infos. Je me suis dit, putain, j'espère qu'il reste du poulet. Mais
pense aux victimes, entre parenthèses.
Pense aux victimes, hommage un peu spécial. Mais du coup, j'ai fait la recherche d'où est-ce que ça venait le Kentucky Fried Chicken. Et puis vraiment, c'est un gars qui s'appelait le Colonel Sanders.
D'accord.
Vraiment, il existe, du coup.
Le moustachu, là.
Ouais, non, il existe, le gars, et apparemment, au début, c'était dans les années 70 quand il a revendu son affaire, et il touchait 40 000 dollars par an pour avoir sa face un peu sur tous les buckets, et maintenant il touche 200 000, puis, donc il a fait une bonne affaire, il touche plus rien, il est décédé, mais en tout cas, sa famille maintenant. Mais du coup, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que, comment est-ce que le Kentucky Fried Chicken était apparu? Et là, apparemment, de base, c'était un avocat, le chef. Et à un moment donné, il s'est battu avec son client dans un tribunal. Et tellement le juge, il a aimé le combat, il a nommé ça un combat de coq, un combat de poulet, d'où le chicken. Et puis
Ouais.
il a décidé en anglais, du coup, de libérer le client du colonel Sanders. Il a dit You free. Donc du coup, poulet free.
Oh putain!
Ah ouais, d'accord.
Ouais, non, voilà, c'est ça. Non, mais
Ah.
là c'est. Est-ce que. Alors, on va faire comme
Père
McFly et
Castor,
Carlito.
quoi.
On va faire comme McFly et Carlito. On va dire, est-ce que cette anecdote est vraie ou
Ouais.
fausse?
À vous de choisir.
Je vois très
Ouais, moi j'ai d'y croire.
J'ai envie d'y croire, même si
Ouais.
il y a de très fortes chances pour que ce soit fausse, mais je pense que c'est un truc que je re-raconterai à mes enfants. Ouais.
Ouais, un peu
Histoire
ça.
américaine.
Voilà, c'est ça. C'est Only in USA.
Merci à toi,
Ouais,
Diego. Hein.
Guillaume, tu parlais de Lucky Luke. Il y a des auteurs français là, qui ont fait la suite des aventures de Lucky Luke en 2 tomes. Là, qui a tué Lucky Luke et un autre. C'est vraiment excellent si vous avez l'occasion aussi.
Ah ouais,
Oh,
elles sont
d'accord.
fortes,
Je me
elles sont
note.
bonnes.
Ouais, elles sont vraiment bonnes. J'y allais avec un peu de doute. Et en fait, ils reprennent Lucky Luke en mode très premier degré. Et du coup, c'est assez drôle, quoi. Genre, dans Lucky Luke, il y a un méchant qui s'appelle Philippe de Fer. Et là, du coup, il y a son frère psychopathe qui s'appelle Bob de Fer. Enfin, nique tous les jeux de mots, les trucs, etc. C'est premier degré. Tout le monde lui reproche de parler à son cheval, de plus fumer et tout. Enfin, c'est assez marrant. Ouais.
Bon, on a l'impression que vraiment, s'il y a quelque chose dans lequel se lancer, c'est la BD, ça a quand même une facilité d'accès. Bon, facilité d'accès, pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a la qualité des dessins et tout ça, mais en tant qu'auteur, j'ai l'impression qu'il y a une liberté en fait que tu peux pas avoir. Tu veux par exemple faire un court-métrage ou un film ou voilà, enfin, un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment la BD qui a la plus facilité d'accès. On le voit avec beaucoup d'auteurs qui se lancent là-dedans, comme par exemple Monsieur Poulpe et d'autres issus de YouTube qui se lancent dans le business de la BD.
Ou Alexandre Astier.
Ou Alexandre Astier.
Après, il leur faut quand même des dessinateurs, quoi.
Ouais, c'est
C'est
ça.
rare qu'ils fassent ça eux-mêmes. Mais ou alors tu fais comme Arthur et tu
Voilà.
détournes super bien
Voilà.
le Tintin. D'ailleurs, Tintin, est-ce que Arthur, c'est quelque chose qui. Comment t'es arrivé au. Ben, tu nous as un peu raconté là par rapport à ce groupe. Est-ce que tu as toi une relation particulière avec Tintin ou c'est quelque chose que tu t'es dit bon, pourquoi pas faire ça parce qu'il y a quand même des images sympas.
Ouais, en fait, j'y pensais plus trop, mais un petit peu quand même quand j'étais minot chez mes grands-parents, c'est tout le temps les BD que je lisais en attendant. Je me souviens de ce salon un peu vieillot là où je lisais l'intégrale de Tintin, quoi. Donc forcément, je pense que ça m'a marqué, quoi, enfant. Et puis les dessins animés aussi, avec son générique, là. Faut pas le
Ah, le
refaire, c'est très
mercredi.
mal.
On l'a tous
Mais...
dans la tête. Hein.
Exactement, ouais, voilà. Ça, je les ai tous vus quand
Le
j'étais gosse,
mercredi.
avec
Avec
mes parents, quoi, ça m'a marqué.
cet épisode hein, des 7 boules de cristal qui est vraiment horriblement flippant.
Voilà, traumatisé par Askar Kapak, comme toute une génération. Ouais.
C'est des animés très réussis. Hein.
Mais ça veut dire, c'est quoi la théorie selon laquelle Tintin serait raciste?
Ouais, c'est intéressant
Okay.
parce qu'en vrai, on le voit vraiment évoluer dans les épisodes. Bon, sur la fin, c'est plus, enfin, Hergé, il a gagné un peu en. On va dire, je sais pas, il a évolué, il est sur des trucs différents, il suit vraiment sa période. Et Hergé, c'est une sorte d'éponge, en fait, par rapport à tout ce qui se passe autour de lui, quoi. Il n'a pas des idées extrêmement définies et tout. On a essayé de lui coller plein d'étiquettes, mais en fait, il est vraiment dans son temps. Donc, il fait un premier album sur le Congo où il n'est jamais allé et tout, un peu de commande. Après, il se fait un pote chinois dans la vraie vie, donc il fait un album sur la Chine en mode parti pris pour le peuple chinois, victime des Japonais, avec tout un truc sur les clichés qu'on peut avoir sur les Chinois et la vérité, avec Chang qui fait la morale à Tintin. Enfin, vraiment, il déroule en fonction des gens qu'il rencontre dans la vraie vie, des influences qu'il a, tout ça. Je pense que c'est quelqu'un, bien comme en mal, d'assez influençable, en fait, avec un certain regard naïf.
D'accord.
J'écoutais un truc aujourd'hui en plus sur ça. Pour préparer un peu l'épisode, et j'ai entendu que c'était un abbé anticommuniste qui l'envoyait un peu à droite à gauche pour répandre un peu la bonne parole, on va dire. Et par exemple, c'est un abbé belge anti-soviète, et c'est comme ça que par exemple est né l'album Tintin chez les soviets. Et du
Ouais,
coup,
c'est
en fait,
exact.
il fallait qu'il aille caricaturer ailleurs pour. Et en fait, il est envoyé au Congo parce que le Congo c'était une. une colonie belge à l'époque, et du coup il est revenu avec un peu les clichés du Congo, et c'était que des trucs comme ça en fait.
Tout à fait, voilà. Du coup, pendant la période Seconde Guerre mondiale, il y a des trucs genre sur l'étoile mystérieuse aussi, où il y a un propos qui est typique de son époque, quoi. Dans les premiers albums, c'est assez marqué, puis après on est sur des trucs plus tranquilles. Mais même par exemple dans le sceptre d'Autocar, excusez-moi, c'est pareil, quoi.
Il y a les Balkans.
Qui défend une monarchie visée par un complot politique. Alors on ne sait pas exactement si c'est communiste ou fasciste. En tout cas, il y a le voisin bordure qui est une sorte de mélange de différents régimes comme ça, qui se tient prêt à intervenir. Et voilà, en fait, c'est marrant parce que c'est pas raccord l'univers. Dans Tintin au pays soviétique, il y a l'Union soviétique, c'est clair, etc. Et dans les albums différents, tout cela est remplacé par des régimes complètement inventés, quoi. La Bordurie, la Sildavie, le Remède.
D'accord.
Donc, c'est aussi un truc qu'on passe du monde réel et des petits strips destinés à illustrer un journal à des BD à part entière dans un univers où on invente des pays.
Ouais, donc c'est important de le replacer dans son époque, quoi. Faut arrêter de... Mais voilà, c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point c'est vieux Tintin, là, puis les mœurs évoluent aussi, donc on peut forcément lui coller une étiquette assez facilement si on regarde ça avec l'œil actuel, mais si tu te places un peu, si tu fais l'effort de retourner dans le passé, tu te dis, bon, c'est quand même...
D'ailleurs, Hergé a lui-même réécrit un peu certaines cases ou passages aussi. Hein. Bon, on peut le prendre comme quelque chose de positif ou de négatif, peu importe, mais c'est vrai qu'il a, je pense notamment au Pays de l'Or Noir ou à d'autres, où il a supprimé des cases.
Mais du coup, ce serait quoi la thématique de Tintin s'il devait sortir un album demain?
C'est une bonne question. Je pense qu'il ferait un truc sur de facilité de boomer sur les réseaux sociaux et les jeunes.
Ouais.
le dernier en projet avec l'Alphard, déjà, qui était une critique du monde de l'art contemporain, on sent qu'il aurait fait un truc... ah ouais, je vous comprends, c'est normal, foutage de gueule.
Ouais. Tintin au pays du Darknet, qui commande des missiles sur l'air.
Tintin sur Koh-Lanta.
Ouais, c'est la réalité, ce serait un bon sujet, ça.
Ouais, c'est ça, Tintin la télé-réalité. Ouais. Très bien.
Donner des idées de tournement. Hein.
Ben ouais, c'est peu propre. Vas-y, hein. Pioche, c'est pas grave.
Je note. Un truc Koh-Lanta, c'est bien faisable, là.
Ouais, surtout avec ce qui s'est passé, là.
Passé, que je regarde un petit peu là, il paraît que la dernière émission était terrible.
Moi je sais pas,
il n'y a pas eu de vainqueur.
J'ai suivi sur Twitter parce que c'est comme ça que je vois les trucs tout le monde fait un truc sur Koh-Lanta en ce moment, et c'est vrai que apparemment les mecs ils se mettaient des grands steak frites alors qu'ils étaient
des grands buffets.
Donc là t'as un détournement à faire, ouais.
Ok, vas-y, je note.
Si vous étiez un personnage en Tintin, qui vous serait, qui vous seriez d'ailleurs? Vous serez n'importe quoi.
Alors moi, c'est vite vu, franchement, ad hoc, sans réfléchir trop comme ça.
1 000 000 000 sabords.
Genre, il aime bien picoler, il est colérique et... Et puis, il aime bien traîner avec ses potes. Moi, ça me va tout à fait.
Pareil, je crois que je le reconnais là-dedans aussi.
C'est le bon vivant, quand même.
Ouais, c'est ça.
Difficile de choisir quelqu'un d'autre.
Ça serait Chicandier, en fait.
Ouais, un peu, voilà. Le métal.
C'est ça.
C'est vrai qu'il adore, il adore l'agneau.
Ouais.
On est tous des adocs.
Mais Milou aussi, apparemment. Milou, c'est le whisky aussi.
Ouais. Milou, c'est un sacré alcool.
Ouais, la picole.
Ouais. Alors que Tintin, lui, c'est un petit hypocrite, parce que dans le premier album, il se met des caisses, notamment dans l'oreille cassée, comme ça,
où il
fait énormément. Et puis après, il fait la morale à ses amis deux albums plus loin, sans trop d'explications.
Mmh. Ouais, c'est comme les mecs qui ont arrêté de fumer et qui font la morale après, quoi.
Voilà, c'est les pires.
N'importe quoi.
Alors que le gars tapait de l'opium deux cases avant.
Ah ouais.
C'est la transition.
Ouais.
Moi, non, mais... Son pote, Raskar Papak.
Mais non, c'est pas du tout son pote, Diego. C'est l'ennemi.
C'est un méchant. Papak.
Non, mais il a un pote à un moment donné.
Ah oui, avec le grand menton. Hein.
Ouais, comment il revient dans plusieurs épisodes, son pote, là.
Oui, Alcazar.
Ah, Général Alcazar, ouais. C'est vrai.
Ouais, je suis pas lui, mais lui, je l'aimais bien.
Ouais, il était stylé aussi. Ouais. Puis il y a le côté personnage récurrent qui est pas mal, où on le voit comme une sorte de général d'opérette dans l'oreille cassée, puis on le revoit en mode moitié chômage à faire du stand-up quelques séances après, là, c'est pas mal ça.
Comme tu dis, c'était sympa de revoir des persos comme Castafiore aussi, qu'on revoyait sur certains épisodes, enfin épisodes plus bouquins, mais de faire une espèce de fil rouge comme ça entre tous les personnages, c'était vraiment sympa,
ouais. Ouais, complètement. D'ailleurs, pour la petite histoire, là encore, je crois que c'est dans... Je ne suis pas certain, mais il me semble que c'est dans Tintin au Congo ou en Amérique que dans les dernières éditions, ils ont rajouté les Dupont sur un quai de la gare. voilà, pour tirer un peu le fil. Alors. Ils apparaissent un peu tardivement, normalement.
Ah, eux sont bien.
Même Haddock, hein, je crois qu'il apparaît au 7e épisode, un truc dans le genre.
Ouais, il apparaît tard, oui, apparemment. Et Arthur, tu parlais tout à l'heure d'un gros compte. Tu as un compte quand même à 60 000 abonnés, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Et la question est un peu bateau, mais c'est qui ta plus grosse célébrité dans tes abonnés?
Ouais, ouais, non, tranquille. Je n'ai pas trop regardé. Alexandre Astier, peut-être.
Ah, incroyable, ça, quand même.
Ouais. Alors, pour la petite histoire, d'ailleurs, j'ai fait une gaffe parce que je ne sais plus. Genre, je lui ai dit, ouais, j'aime bien ce que vous faites, tout ça. Alors, il m'a dit, ah ouais, moi aussi et tout. Et puis, j'étais complètement bourré, je crois. Je lui avais envoyé un message à 3h du matin en mode, ouais, à cause de toi, on m'a fait des blagues sur Arthur, Couillère, ma jeunesse, tout ça. Il m'a lâché un vu, il ne m'a plus jamais répondu.
Alors, tu aurais dû envoyer un news.
Ouais, ouais, tant qu'à faire. Hein.
Sinon, perdu.
Ouais, après, j'ai pas trop regardé qui c'est qui me suivait. Des fois, je tombe sur des gros comptes. C'est un peu des hasards. C'est vrai qu'il y a un truc qui est cool, par contre, quand on a un peu d'abonnés, c'est que ça permet de discuter avec des gens qu'on aime bien, dont on suit le travail et qui, normalement, répondent pas forcément ou quoi. Donc, ça, c'est pas forcément rationnel, mais c'est cool. Ouais, ouais, c'est de la légitimité. Ouais.
Ben, nous, on le voit. De toute façon, on parle pas n'importe qui. Il faut au moins, t'as pris 50, 60 000. On commence à regarder les messages.
Voilà, après, ouais, c'est ça. C'est des no-names.
On est bien placé pour comprendre ça.
Derrière, on a jamais répondu à celle qui interprète Hermione Granger, j'ai plus le nom là.
Ah, Emma Watson. Bah, Emma Watson
hein, ouais.
Bah, comme on a des copines.
Une interview.
Bah, on a des copines, donc tu sais comment ça fait. Après, c'est un peu.
C'est ça, on l'a pas mis en vue encore pour pas la vexer, mais on n'est pas loin. Et du coup, quelles sont tes influences à toi pour détourner? Parce qu'on voit que tu fais des petits liens, par exemple, au Seigneur des Anneaux, à Zemmour, aux Afghans, ou même à Stupéflip. Est-ce que tu as des sujets favoris pour où tu t'es dit, là, c'est sûr que ça va marcher, ou tu fais en fonction de l'actualité?
Ouais, c'est vaste. En vrai, ce qui fonctionne le mieux, et je ne suis pas du tout le meilleur pour ça, il y en a qui font ça vraiment avec brio, c'est actualité et culture pop, on va dire. Et souvent, moi, je fais des trucs en 4 cases, 5 cases, tout ça, pour mettre un peu de texte. Mais en vrai, si je voulais rentabiliser sur les réseaux, je ferais des trucs en une seule case parce que bon, les gens consomment rapidement l'image et du coup, il faut avoir des trucs qui t'accrochent immédiatement. Quoi. Et moi, ce qui me fascine, c'est les gens qui arrivent à faire des tournements de Tintin avec un truc génial entre une case et un truc voilà, que tout le monde connaît, une pub, la réplique d'un homme politique ou je ne sais pas quoi. Ça tue. Et du coup, les influences sont extrêmement variées. Franchement, j'avais essayé même de faire des trucs sur... C'est aller de la poésie anglaise du 19e siècle à des blagues de cul en passant par des trucs sur des trucs référencés sur, je sais pas, ouais, comme tu disais, des films, des séries, des trucs qui se passent dans le monde, tout ça. Enfin, ça fuse d'un peu partout en fonction de ce que je vois passer.
Ben là, ton dernier sur la primaire de gauche est incroyable avec Dupont. Je sais pas si vous avez vu les autres.
Ah, il est incroyable. Il m'a vraiment fait rire.
Ah, merci. Ouais. Ben, il n'est pas aussi bon que celui qu'il a posté là sur la boucherie sans eau qui reçoit l'appel de Montebourg. Mais bon,
pour
l'histoire derrière celui-là, là, c'est.
Amitié.
Ouais. C'était un autre là, quelqu'un qui fait qui a un compte aussi de même, j'ai plus en tête, mais c'est un brosien, et qui demandait dans une conversation de groupe si on avait une idée de cases et de même, enfin de blagues sur la primaire, et du coup je lui ai dit, tiens, on pourrait utiliser tel et tel gaz, puis après je me suis dit, tiens, je vais le faire moi-même, je vais voler l'idée tant qu'à faire, et voilà, ça part.
En fait, vous avez même des groupes de mèmes de Tintin et vous inspirez en fait les uns les autres.
Ouais, moi je la joue pas très collectif, j'avoue que je suis un peu des trucs dans mon coin, mais j'ai été rajouté sur des conversations de groupe, tout ça, donc c'est après bon, c'est toujours agréable d'échanger avec des gens qui font des trucs dans le même genre.
Ok, ça marche.
Du coup, Arthur, est-ce que tu vois comment l'évolution de ton compte, comment tu vois ça dans les mois à venir ou même dans les années à venir? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer? Est-ce que tu as envie de faire autre chose? Comment t'es par rapport à ça?
Franchement, je vois trop de possibilités. Quoi. Soit à un moment, je n'ai plus l'inspi et j'arrête un peu du jour au lendemain. J'avais déjà eu des gros comptes sur Facebook, Tumblr ou quoi, avec d'autres trucs des fois. Et puis après, des fois, un jour, ils se font striker ou comme ça et puis j'ai arrêté. Ou alors juste, j'avais plus la motive. Et après, c'est possible aussi que juste un jour, je me prenne un mail de Moulin Sarissa ou de je ne sais pas qui me disent d'arrêter pour telle ou telle raison que j'ignore. Et bon, il faudra arrêter. Ou alors, transformer l'essai, puis voilà, hein, si je peux en continuer à faire des trucs sur ce sujet-là ou rebondir sur d'autres sujets, ça me plairait bien. Des fois, sur mon compte, j'en profite pour raconter un petit peu ma vie. Bon, j'évite parce que ça n'intéresse pas grand monde, mais des fois, j'aime bien parler d'autres sujets. J'avais essayé de faire des mèmes un peu médiévaux, des trucs sur d'autres choses, des trucs plus méta. Donc voilà, explorer d'autres possibilités. Quoi. J'ai des potes qui sont dans la BD qui m'ont dit que je devrais essayer de faire d'autres trucs, mais je ne me sens pas forcément ni légitime ni compétent. Pour...
Est-ce que tu dessines aussi à côté? J'imagine que pour avoir fait du graphisme, etc., tu dois avoir un certain talent de dessinateur. Peut-être que je me trompe aussi, là, c'est pas...
Alors, je dessine beaucoup, mais pas très bien. Hein. Je vais être honnête, j'ai jamais de formation. Ouais, je suis complètement autodidacte sur ce genre de truc. Enfin, autodidacte, c'est prétentieux. On dirait que je... enfin, dans le sens, je n'ai jamais eu de formation formelle, professionnelle ou quoi que ce soit, ou même d'études là-dedans. Du coup, enfin, voilà, je dessine des petits Mickey, quoi, des trucs qui me font plaisir, mais rien de plus.
Mais après, regarde Volinsky, par exemple, quand il dessinait, c'était vraiment ses trois coups de crayon et ce qui fait vraiment la qualité. Ou même quand on regarde Le Chat de Philippe Gueluc. Bah lui, le chat en soi, en termes de dessin, c'est zéro. Et pourtant, ce qui fait la qualité, c'est vraiment ce qui met en contenu des bulles. Donc, toi, tu as le contenu, ça se trouve. Tu t'es jamais dit, ah, je pourrais peut-être créer un personnage en 2-3 coups de crayon. Et puis, je me fais à faire de la caricature.
Si possible. En plus, je pense que c'est la contrainte qui pousse un peu à la créativité. Du coup, si à un moment, je ne peux plus faire de Tintin, moi, je fais autre chose. Peut-être que je pourrais. Quelque chose. Par exemple, l'infographiste, je trouve qu'il a super bien rebondi en faisant des détournements d'images anciennes. C'est assez exceptionnel. Et du coup, voilà, ce genre de. On t'empêche de faire un truc, tiens, tu trouves autre chose. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez agréable aussi avec Tintin et les tournements, c'est que tu as un cadre qui est un peu imposé. Enfin, tu peux le tordre un peu dans tous les sens, mais tu as des personnages qui sont dans des poses, des trucs comme ça. Et il faut s'inspirer des contraintes que tu as un petit peu. Et là, ce serait pareil, quoi. C'est vrai que je pourrais essayer hein, de dessiner des petits strips, tout ça, mais je sais pas, j'aurais l'impression que ce serait pas très drôle et tout. J'ai jamais passé ce cap-là.
Okay. D'accord, de belles promesses.
C'est vrai que c'est rigolo de voir des personnages de Tintin aussi se réapproprier des textes actuels. Ça rajoute un caractère comique. Mais
voilà, c'est aussi la sécurité dans l'humour. C'est que Tintin, dès qu'il dit un gros mot, qu'il fait une réflexion d'actualité ou comme ça, le décalage en soi, c'est un ressort. Bon, ça a été surutilisé, mais c'est un ressort comique qui fonctionne. Et du coup, il y a une facilité en vrai.
Ouais. Est-ce que ça fonctionnerait sur un autre type de BD, par exemple?
J'ai pas mal réfléchi. Souvent, on m'a dit, ouais, pourquoi tu fais pas des crossovers avec telle ou telle BD, avec Spirou, avec d'autres trucs et tout. Et je pense Tintin, déjà, en fait, c'est facile de redessiner en partie. On a les typos, enfin, il y a plein d'avantages. Quoi. Je sais qu'il y a un groupe Facebook où ils détournent beaucoup Picsou, et pareil, c'est très drôle, mais je sais pas. Je trouve que Tintin, c'est vraiment tellement l'idéal avec la ligne claire pour détourner.
Puis même, c'est iconique, c'est une BD iconique dans le monde de la BD. C'est peut-être, si on parle à des gens, quel est pour toi, si on te dit BD, tu penses à quoi? Ça va être soit Astérix Obélix, soit Tintin. Donc forcément, voilà. C'est sûr que, voilà, comme tu disais, puis même il y a un tel décalage, par exemple, que moi, un de mes préférés, c'est un de tes tout débuts, j'imagine, fait sur Instagram, c'est Tintin le gros schlag pigé de chez Vice.
Ah
celui-là,
oui.
Celui-là, il m'a buté. Habillé un jog et tout ça. Non, mais c'est vrai que, justement, ouais, le fait d'utiliser des expressions de maintenant ou même des insultes, mais des paroles grossières au personnage qu'est Tintin, c'est vrai que. C'est le décalage fait la réussite, quoi.
Voilà, d'ailleurs, tu parlais de Astérix, tu vois, Astérix, il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plein de références et tout. Tintin, je trouve que, bon, il y a 10 000 personnes qui ont écrit des trucs sur Tintin, à la place des femmes dans Tintin, si, ça, etc. Mais en vrai, je trouve que c'est quand même très, comment dire, comme il y a ce truc un peu naïf, c'est très premier degré, quoi.
Ouais,
tu prends les histoires comme elles sont.
Ouais.
C'est pas bon, il y a 2-3 blagues, 2-3 références, mais les gags même sont très enfantins, etc. Et du coup, c'est facile à détourner.
Mais là, je pense que tu vas avoir vraiment du sujet à exploiter là, dans les prochains mois. Là.
Avec la présidentielle, ça va te mettre de l'eau à ton moulin.
Ouais, avec le Covid, avec tout ça, là, ça doit être quand même. Tu dois pas chercher longtemps au final.
Non, c'est que l'actualité, c'est tellement un repère de blagues, c'est incroyable.
Mmh. Bah ouais, surtout, ça s'arrête jamais en fait.
Ouais, des fois j'ouvre Twitter, je regarde les hashtags qui sont trending là sur le moment et ça me donne une quinzaine d'idées de conneries à raconter.
Ouais.
C'est bien d'avoir cet esprit-là aussi, de prendre un recul sur la société de manière générale. Je trouve que les gens qui ont de l'humour comme ça, qui balancent des saucisses à droite à gauche sur la politique, généralement c'est les personnes avec qui c'est le plus agréable de parler aussi. Le monde qui se recule un peu, qui se détache, qui arrive à trouver des côtés humoristiques. Même des fois, ça sert à sensibiliser aussi l'humour, là, c'est même souvent d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une arme au quotidien pour voir les choses du bon côté quand même.
Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est par cynisme ou est-ce qu'au contraire, ça peut pousser des gens à s'intéresser au-dessus, enfin, à certains sujets et tout. Franchement, j'ai pas d'avis tranché sur la question. personnellement, j'ai un peu l'impression de faire les deux. Quoi.
En tout cas, après t'avoir lancé multiples bouquets de fleurs, Arthur, nous allons te tester. Allez, avec le Tinti Quiz et nous allons voir si vraiment tu es un fan ultime de Tintin. Et c'est à ce moment-là, du coup, je te passe le relais, mon cher Thibaut.
Écoute, j'ai préparé un petit quiz sur Tintin en 5 questions. Je ne savais pas ton niveau, je me suis dit, je savais que tu serais calé, mais je pense que là, les questions ne sont pas assez difficiles, c'est dommage. Mais on va voir quand même si tu t'en sors. Mais je pense que je te pronostique quand même un 5 sur 5. Hein.
Allez, vas-y, teste-moi. Et je n'ai pas un si bon niveau que ça, donc il y a moyen de me coincer, t'inquiète.
Ok, ça marche. Bon, alors on va commencer par la première question. Quel album a été réalisé en jeu vidéo qui a été caractérisé comme un jeu vidéo impossible à terminer?
Ah, facile, Tintin au Tibet.
Ouais, voilà, Tintin au Tibet, on se souvient.
Joueur du grenier.
Joueur du grenier.
C'est son premier, je crois.
C'est celle qui l'a fait connaître, je crois.
Yes.
C'est celle qui l'a fait connaître. Il est totalement en souffrance dedans. Et puis, il a essayé de le refaire. Il s'est complètement chié. Il a fait 30% du jeu. Il n'a pas réussi à aller plus loin.
Putain, exact.
C'était un jeu qui était sur la NES à l'époque.
Bien vu, ouais.
Ah, tu vois, déjà, un par un. Celui-là était facile.
Allez, ça commence bien.
Ensuite, quel était le vrai blaze de Hergé, l'auteur de la BD?
Quelque chose, Rémi, le... Mince, je l'ai en tête en plus.
Rémi, c'est bon. Je peux t'aider, Rémi, c'est bon.
Allez, c'est déjà ça. Rémi...
C'est un double prénom.
Je ne sais même pas.
Georges Rémi, voilà.
Georges Rémi, bienvenue.
Allez, ça m'est revenu. Promis, je n'ai pas regardé un écran ou quoi que ce soit. Hein.
Pas. On te fait confiance. Et, confiance. Et voilà, il a choisi de reprendre ses initiales et les inversa. Donc, Georges Rémi, GR, si on inverse, ça fait RG. Et puis après, c'est devenu RG, H-E-R-G.
C'est ça.
Voilà, pour la petite histoire, pour s'instruire un petit peu.
Et Milou, ça vient du prénom, enfin du surnom de son ancienne petite amie, apparemment.
Ouais, c'est assez flatteur, j'ai l'impression.
Ah ouais, il ne veut pas être bien avec elle.
Si vous deviez comparer.
Ouais, Thibaut, je voulais juste souligner et faire un petit coucou au RG, la fameuse boîte à Tarbes.
Ouais, exactement.
Où, tu as galoché des centaines et des centaines de convives.
Waouh, je ne suis pas sûr que. Bon, ok, ça marche.
Je note. Moi, j'aurais.
Comment on peut différencier Dupont et Dupont? Déjà,
par la moustache. Moustache en D, moustache en T.
Ah ouais. Ouais, moi j'aurais plutôt dit par rapport à leur nom, mais oui.
Oui, par
physiquement,
les deux. Et anecdote d'ailleurs, mais parfois RG, dans les premiers albums, parfois il se plante. Il y a un où il y a un Dupont qui appelle l'autre, et en fait c'est pas la bonne moustache. Voilà.
Ok. Ah d'ailleurs pour la petite, ça me vient maintenant, mais dans Astérix Obélix chez les Belges, il y a un caméto de Dupont et Dupont qui viennent à un moment.
Yes.
C'est ma prochaine question.
C'est vrai. Oh non, mais tu sais que j'ai tellement joué le jeu parce que je voulais pas regarder tes questions.
Ma prochaine question, c'était quel personnage a fait une apparition dans une autre BD, donc s'il s'agit bien d'Astérix Obélix. Alors on va pour voir si tu valides dans quel album d'Astérix Obélix ils apparaissent.
Ouais, c'est pas chez les Helvètes. Comment il s'appelle celui en Belgique? Je crois chez les Belges, simplement.
Chez les Belges.
Chez les Belges.
Il avait dit avant Guillaume.
Ah, je... voilà. Désolé.
Le point est pour Guillaume, hein, il n'est pas pour moi.
Désolé, mon Thibaut.
Pas de problème. Et la dernière question, du coup, facile, je pense que j'aurais dû peut-être élever la barre un peu plus haute. Capitaine Haddock aurait balancé pas moins de 220 jurons dans les albums de Tintin. Est-ce que tu peux m'en citer 5?
Ouais, Zouave, Anthropophage, Cercopithèque, que je suis allé chercher, c'est un type de singe.
Alors, je l'avais pas noté, mais je l'ai vu.
Allez, Anacolute et Petit Ornithorynque, qui est ma préférée, qui dit à Abdallah en lui mettant une fessée.
Bah, c'est très bon. C'est très bon.
Marin d'eau douce, moi.
Marin d'eau douce,
Diego, t'en avais, toi?
Ah, il y a le Moulagoffre aussi.
Moulagoffre. Qu'on retrouve d'ailleurs dans la série, comment elle s'appelle, Le Bureau des Légendes.
Ah oui, mais c'est ça, et justement, les personnages ont tous des insultes du Capitaine Haddock. Il y a Tonnerre de Brest, Moulagoffre.
Alors, c'est pas des insultes, c'est des jurons, justement, c'est ça qui est marrant dans les Tintins, c'est qu'ils n'ont pas été au-delà de l'insulte. C'est-à-dire que c'est un personnage grossier, mais qui ne va pas plus loin que le juron. C'est-à-dire c'est un mot. Voilà.
Il sacre.
C'est ça.
Il y a Rocambole aussi dans Le Bureau des Légendes.
Rocambole,
Et Malotru, évidemment.
Moi, je peux vous citer Mille Sabords. Je l'ai sous mes yeux, c'est pour ça que c'est facile de le citer. Il y a Mille Sabords, Anthropopithèque, Troglodyte, Tonnerre de Brest, Moule à Gaufre, Sacajou, Rocambole, Bachibouzouk, Crétin des Alpes, Nyctalope, Zouave, Marraine Douce, Ornithorynque ou Iconoclaste.
Allez, joli.
Ouais, c'est pas mal.
Sympa.
Hein
ouais, c'est un travail de fond.
Noël, c'est là. Ouais, il y a la petite somme là, en BD des insultes du Capitaine Haddock qui est top à offrir à quelqu'un que vous aimez bien.
Ah, ouais. C'est une très bonne idée, ouais. Et ouais. J'ai vu qu'il y avait, du coup, je me suis renseigné, il y avait Casterman qui avait fait la maison d'édition pour fêter les 80 ans de Capitaine Haddock. Ils ont fait justement des stories sur les jurons du Capitaine Haddock et c'était pendant un mois, je crois, c'était un jour et un juron.
Excellent.
C'était, voilà, c'était pour les plus culturés.
En tout cas, merci Thibaut.
Ouais, j'ai dit ça. Il est 22h41. Il est 22h41. J'ai dit culturé.
C'est valide.
Alors Arthur, pour toujours aiguiser un peu ta vivacité culturelle, là je te propose, parce que c'est vrai que dans les bandes dessinées, il y a toujours évidemment les héros et puis il y a les méchants. C'est vraiment des personnes qui viennent un peu mettre les bâtons dans les roues ou les gravillons dans les sandales des protagonistes préférés. Donc là, ça va être très rapide, un peu à l'instar d'une boule de feu que je te passerai. Il va falloir que tu me dises un méchant par BD ou personnage que je vais te dire, ok?
Allez.
Donc, il y a plusieurs bonnes réponses, mais ça va aller très vite.
Il n'y a que Arthur qui participe.
Il y a Arthur qui participe, mais si Arthur ne connaît pas, vous pourrez participer, messieurs. Et au montage, je couperai ça hyper vite pour que ça fasse vraiment comme si c'était hyper vite.
Oh, super. Ok. Ouais,
donc, bon, je l'appelais boule de feu, comme à peu près tous mes quiz, mais...
Alors, faut-il que je connaisse la BD, du coup.
T'es prêt?
Allez, go.
Top Chronos. Picsou.
Mystique.
Tintin.
Raskar Kapak peut compter. Sinon, on va dire Astapopoulos.
Yakari.
Yakari, comment il s'appelle? Le Glouton.
Oh là là.
Alors, pause. Le Glouton.
Ouais, il y a un album où t'as un glouton, là, le gros animal qui est l'antagoniste. Un peu. Je crois que c'est Yakari chez les Castors. Je suis pas
ça. Ah, c'est pas le Carcajou?
Si, t'as raison. Je crois que c'est le nom québécois d'ailleurs.
Le glouton, c'est Diego, hein. C'est un peu son surnom en petite Italie. Petite Italie.
Par les commerçants du coin.
Les commerçants,
mais alors, c'est sournois, mais je me demande si Carcajou, c'est pas le nom en keb du glouton. Mais,
ouais, reprise. Astérix Obélix.
Il y a qui comment il s'appelle celui qui sème la. Qui sème la zizanie, ou Jules César, en fait, simplement.
Jules César, finalement.
Il marche, oui,
ça
il y
compte,
avait aussi le devin que j'avais noté, mais César,
le
évidemment.
Le devin, ouais.
Lucky Luke.
Lucky Luke, les Dalton.
Schtroumpf.
Azrael.
Koh-Lanta 2021.
Aïe, le présentateur.
Ah, Denis
Brognard, non? Allez.
Le steak frites du Buffalo Grill.
Ouais, il compte.
La petite maison dans la prairie.
J'aurais tendance à dire l'environnement, c'est le seul vrai ennemi.
la pente descendante.
La pente descendante
de la prairie qui est voilà, le dénivelé.
J'aurais dit Nelly Olson, qui est la petite garce, fille de Olson, le gars qui tient la boutique, qui est vraiment pas sympa du tout. Du coup, je sais pas si tu connais, mais en Ligue 1.
En Ligue 1, oulala. Il y en a beaucoup.
Ouais.
On va dire qui un club que j'aime pas. J'ai envie de tracer personne. Allez, Nice, quand même.
Allez, Nice.
Ah, personnellement, c'était Jean-Michel Aulas, mais...
Aulas, ça compte bien aussi.
Ouais. Nice, bon. Moi qui suis pour l'OM, je vais pas te contredire.
Ah, ça va.
En top 14. Top 14, du coup, si tu vas un peu plus galérer, peut-être.
Pau.
Ça fera plaisir au Valois.
toi Thibaut, si t'en avais un méchant.
Allez pas dire Toulouse.
Non, Castres Olympique ou le Stade Français. Castres Olympique parce que pire supporter. C'est vraiment aucun humour, aucun second degré.
Voilà.
Exactement.
Dernière, alors là, attention, mais quel est le méchant dans les choristes?
Dans les choristes, waouh, la Wehrmacht. Techniquement,
oui.
Alors, oui. Le peintre autrichien, c'est avec la moustache.
Non, je sais plus comment il s'appelle.
Celui qui est Cadmerade. Ah non, celui qui est joué par François Berléand.
non, je pensais Hitler, mais ouais, ça.
Ok.
Ça... Ouais.
Okay. Mais, non, tu aurais pu dire le feu. Le feu qui crame à mon main le local. Ah ouais. Voilà, en tout cas, t'as bien répondu à pas mal de ces questions pour un total de 83% d'après mes statistiques.
Ouais, merci, vous êtes généreux.
La culture Yakari m'a impressionné.
Ah, Yakari, en vrai, j'en ai pas parlé, mais j'aimais beaucoup.
Ouais, avec son fidèle petit tonnerre.
Avec petit tonnerre, encore un cheval qui parle.
Ça commence à faire beaucoup.
Avec Jolly Jumper.
Ouais. D'ailleurs, Milou, on ne sait pas s'il parle ou pas, en fait. Hein, parce que dans les premiers épisodes, c'est pas très clair, et après, on a l'impression qu'il monologue.
Ouais. Il pense, en fait, non ? Ils le font penser à...
Ouais, mais dans les premiers, il y a un moment où Tintin lui, enfin il y a des moments où Tintin lui s'adresse directement à lui. On a l'impression qu'il y a des échanges, mais il y a toujours un flou.
D'accord.
Alors que Uderzo et Goscinny, beaucoup plus raccord à la réalité, n'ont pas fait parler Idéfix.
Ouais, effectivement.
Mais on fait parler le chien de Cléopâtre, le lion.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, bien vu.
C'est vrai. Plus c'est le roi des animaux. Mmh. Oui. Dans cette scène iconique.
En tout cas, merci à toi, Arthur. Je vous rappelle Tintinade sur. Instagram. Sur Twitter, c'est la même chose ou c'est différent ?
Ouais, tout à fait. Okay. J'ai changé le pseudo en Twitinade, mais c'est le même, la même adresse.
Et puis, j'ai vu que tu avais aussi un compte qui illustre tous les plats que tu fais, un compte qui donne faim, en tout cas.
Ouais, et je triche comme un petit bâtard parce que je prends en photo les plats de mes amis et de ma famille aussi. Hein, mais voilà.
Ouais.
Comme c'est mon côté Instagrammeur foodies.
Ouais, mais si on fait des petits plats, on pourrait te les envoyer si tu veux pour alimenter.
Exactement. Ouais, n'hésitez pas. Hein, c'était au plaisir.
Histoire de participer un peu à ce compte. Et merci à toi en tout cas, c'était super sympa d'accepter l'invite. Et puis, si jamais pour la promo de l'épisode, tu veux nous faire une petite tintinade comme ça, qu'on puisse publier. Ça sera avec plaisir. Et puis, si toi aussi tu as un défi à nous lancer, qu'on réalisera sûrement pas, mais si jamais on
met de côté, on va essayer.
Puis des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On n'a qu'à faire un défi qu'on nous a lancé. Puis...
Exactement.
Donc tu peux y réfléchir.
Yes, j'ai pensé à ça. Et puis c'était un plaisir. Hein. Merci les gars pour l'invitation et pour les questions aussi.
Bah avec plaisir, c'était super intéressant d'avoir toute la genèse, tout ce qui s'est passé avant d'arriver à ces 60 000 abonnés et ce compte incroyable.
Au top, c'est un plaisir d'en parler avec vous.
Et un mot à rajouter, le glouton ?
Déjà, je vois pas, c'est la première fois que tu m'appelles le glouton. Je vois pas d'où ça vient.
Vous verrez, comme il avale ses poutines, elle souffre pas.
C'est le seul truc comestible en même temps.
Les poutines. Après, il y en a des bonnes, mais non.
J'ai l'impression que tu nous l'as vexé un petit peu quand même.
Ah oui, évidemment.
Ah, il est pire.
Mon Diego, tu me manques, tu sais. Non, en tout cas, merci à toi. Et puis, on se donne des nouvelles. Et puis, évidemment, tu rentres maintenant dans la grande famille du bonjour, bonsoir.
Yes, ça fait plaisir. Et puis, si je fais cette tintinade là sur Koh-Lanta, je penserai à vous. Là, je vous mettrai un petit mot.
Ça roule.
Parfait, super.
Merci à toi.
Super. Allez, à bientôt.
Allez, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Bonne continuation, les gars.
Bye, Arthur. Bye.
À bientôt.
Ciao.
Bonsoir. Ciao, ciao.
Ciao.
Mon Diego, t'es vexé.
Je le voyais grommeler un peu.
Ça commence par bonjour ou soir.
Bonjour, bonjour.
Non, bonsoir.
Bonjour. Nicolas Sarkozy.
Allez, ciao, bonsoir.
C'est Messia, bonjour.
Bonsoir à ceux qui préfèrent répondre bonsoir.
Bonsoir Paris.